Voilà, d'abord, bonjour à tous, hein. Merci d'être là. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, en fait, sort aussi un peu de la Maurienne, hein. C'est pas que la Maurienne. C'est un sujet sur le temps, en fait, ce qu'on appelle au Moyen-Âge le compute. C'est l'art de compter le temps. Et c'est bien entendu, ça ne démarre pas au Moyen-Âge, ça démarre depuis la plus haute antiquité. Alors, c'est un cours, en fait, c'est un sujet que j'ai pensé traiter parce qu'il m'avait beaucoup intéressé dans un cours de Laurent Ripard en licence d'histoire. Et je lui ai demandé l'autorisation quand même, hein, de copier un peu sur lui. Et puis je l'ai adapté à ma sauce aussi, hein, c'est pas tout à fait son cours. Alors, dans une première partie, je vais vous parler quand même de l'histoire du calendrier. Ça va être pour beaucoup d'entre vous un rappel, hein, mais je pense qu'il faut quand même en parler un petit peu, parce que ça introduit la deuxième partie. Donc le calendrier, est-ce que tout le monde voit bien? Oui, ça a l'air clair. Donc le mot compute, hein, qui était un mot utilisé au Moyen-Âge, c'est simplement le calendrier, c'est rien d'autre. C'est l'art de compter le temps. Et comment le compte-t-on? C'est ce que nous allons voir. Tous ces principes reposent sur l'astrologie médiévale. L'astrologie médiévale, il ne faut pas comprendre le mot astrologie comme on le comprend aujourd'hui. Les astrologues du Moyen-Âge ne sont pas des charlatans, ce sont vraiment des savants. C'est très proche de l'astrologie moderne, c'est-à-dire l'astrophysique. Simplement, à l'époque, on regardait les astres avec les moyens d'époque, et Daniel de Galilée, hein, c'est bien plus tard, donc à l'époque, c'est que les yeux, et ces gens-là étaient quand même des savants, puisque vous allez voir, ils ont quand même trouvé des choses intéressantes. Je parle des textes religieux, des livres sacrés, parlons de la Bible, par exemple. Vous trouvez dans la Bible, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour de la nuit, ils serviront de signes pour marquer les saisons, les jours, et les années. Pardon. Un peu plus loin, on trouve dans la Bible, l'Éternel fait la lune pour marquer les temps, ainsi que le soleil qui connaît l'heure de son déclin. Dans un autre livre saint, dans le Coran, par exemple, vous avez quelque chose d'un peu équivalent. C'est lui qui a fait du soleil une lumière et de la lune une clarté. C'est lui qui a déterminé les phases de celle-ci, et afin que vous puissiez dénombrer les années et calculer la durée du temps. Encore un peu plus loin dans le Coran, on t'interroge sur les nouvelles lunes, dis-leur, ce sont des moyens pour les hommes de mesurer le temps et de déterminer l'époque du pèlerinage. Vous voyez tout de suite quelque chose déjà dans le Coran par rapport à la Bible. Il y a une orientation sur la lune que vous ne trouvez pas dans la Bible, qui est plus orientée sur le soleil. Nous allons en parler dans les vues suivantes. Je remonte 2000 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie, où on trouve un premier calendrier, enfin en tout cas c'est celui que nous connaissons le plus ancien. Il y en avait sans doute avant. C'est un calendrier qu'on appelle de Babylone et qui est un calendrier lunisolaire, c'est-à-dire un calendrier qui se repose à la fois sur la Lune et sur le Soleil. En fait, il y a 12 mois lunaires, mais comme vous le savez, les phases de la Lune, une lunaison, c'est environ 29,5 jours. Ça ne fait pas une année solaire. Ça fait en gros 354 jours. Donc, dans ce calendrier de Babylone, on intercalait un mois de temps en temps. Donc, grosso modo, c'est un mois tous les 3 ans, de façon à se recaler sur le soleil. Voilà le premier calendrier que l'on connaît assez bien. Je voulais également insister sur un point, c'est que le lune et le mois, c'est le même mot en fait. C'est que la notion de mois, c'est la même chose que la lune. Ça n'apparaît pas clairement en français, mais on le trouve facilement dans d'autres langues, par exemple en anglais, où moon et month ont exactement la même étymologie. On le trouve également en allemand, vous voyez, c'est quasiment le même mot. Encore plus parlant, c'est en tchèque, c'est le même mot, messic. Et en danois, vous voyez, c'est pareil, donc le mot lune et le mot mois, donc le mois est défini par la lune en fait. Les phases de la lune, vous les connaissez, donc avec cette nouvelle lune qui marque beaucoup de calendriers. J'ai également vous dire que là, ça se passe entre 2000 et 2020. Vous voyez, là, ce sont les durées de lunaison. Je vous ai dit tout à l'heure que ça faisait 29,5 jours. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque ça peut varier de 29,3 jusqu'à 29,9. Donc, une variabilité des lunaisons. Et ça, ça va poser tout de suite un problème à tous les astrologues de l'Antiquité. Parce que, voilà, les cieux, la marche des astres, ont été créés par Dieu, ou par les dieux dans l'Antiquité. Et donc, on recherche une certaine perfection, qu'on ne trouve pas, en fait, dans l'observation. Le grand problème est donc le rapport lune-soleil. En effet, une année solaire, ça fait en gros 19,36 lunes. Oui, excusez-moi, 12,36 lunes. Et 12 lunes, ça fait 354,36 jours. Encore une fois, ce sont des valeurs moyennes. Donc il n'y a pas correspondance entre les deux. Donc voilà, la question s'est posée dès l'Antiquité et pendant tout le Moyen-Âge. À qui donner la priorité ? À la Lune ou au Soleil ? Alors je serais tenté d'illustrer cette question par une phrase d'un de nos grands poètes qui a dit la chose suivante, et finalement je trouve que sans le savoir, il résume assez bien le problème. Il a dit « Le Soleil rendez-vous avec la Lune, mais la Lune n'est pas là, et le Soleil attend ». Je pense que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vous l'amène là. Dans ce cas-là. Voilà.
Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami.
On entend ?
T'es mieux que moi, t'es mes chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient. Des chansons que je sais, que je te relis pour toi. Les voici, les voilà. Le soleil rendez-vous avec la lune.
Et voilà, donc c'était juste un petit clin d'œil à Charles Trenet qui a finalement très bien formulé le problème. Alors donc, on va avoir deux solutions, vous l'avez compris, l'une au soleil, voire trois solutions avec un mix des deux. Donc le calendrier romano-chrétien, on a choisi une année solaire, et donc 12 mois qui sont absolument sans aucun rapport avec les lunes réelles. Inversement, dans le calendrier musulman, on a 12 mois lunaires, donc une année 354-355 jours, mais qui sont sans rapport avec les années solaires. Le calendrier musulman a démarré donc en 622, donc il a démarré plus tard que le calendrier chrétien. Mais comme les années du calendrier musulman sont plus courtes que les années solaires du calendrier chrétien, il va donc plus vite. Donc il va finir par rattraper le calendrier chrétien. Voilà, c'est un calcul qu'on pourrait poser en CN2, ça. À quelle époque va-t-il sachant qu'il rattrape tant de jours par an. Enfin, je fais le calcul pour vous, hein. Ça sera qu'en 20841, donc on a le temps de voir venir. Voilà. On aura plus mal aux dents à cette époque-là. Alors, donc, les 12 lunes du calendrier musulman, les voici, vous en connaissez au moins une. C'est la 9e lune, je crois qu'elle est en train de se terminer en ce moment, c'est la lune du Ramadan. Voilà. On va parler de la définition du jour. Alors, tout ça, c'est des rappels, hein, mais bon, je vais quand même aller préciser. Donc, la rotation de la Terre autour de son axe. C'est une donnée astronomique qui est très irrégulière. Elle peut varier de plus ou moins une milliseconde par jour. C'est imperceptible à l'échelle humaine, bien sûr. En revanche, la journée tend à s'allonger, environ 2 millisecondes par siècle. Donc pensez à l'échelle de la Terre, hein, ça fait quand même des choses, des durées importantes avec les millions d'années qui s'écoulent. La semaine, maintenant, on parle de la semaine, on a parlé de l'année, on parle de la semaine. Donc la semaine, avec l'observation des astres, des astrologues de l'Antiquité, quand il parle d'astres, hein, c'est aussi bien une planète comme la Lune, une étoile comme le Soleil, ou des planètes comme Mars ou Vénus. Donc dans l'Antiquité, on n'avait pas encore la lunette de Galilée, on observait en gros sept astres. Les voici, les sept astres. Et donc, on va attribuer donc à chaque astre un jour de la semaine. En latin, le jour, ça se dit dies. Donc on a récupéré la racine du mot, dei, et puis on l'a ajouté comme suffixe au jour. Comme lundi, alors lundi on a pris la lune, ce qui nous donne donc l'un, dit, le jour de la lune. En anglais c'est pareil, un Monday. En italien c'est encore plus parlant, lunedì. Le mardi, ça va être le jour de Mars. Le mercredi, évidemment, c'est Mercure. Le Jupiter, en latin, ça dit Jovis, donc Jovedì en italien, jeudi en français. Vénus, ça va être le vendredi, c'est plus parlant en anglais d'ailleurs, Wednesday. Et Saturne va être le samedi. Encore une fois, l'anglais a gardé plus exactement donc l'étymologie originale. Et puis le dimanche, donc c'est le jour du soleil. Donc en français, ça n'apparaît plus parce que dimanche, ça ne fait pas penser au soleil. C'est simplement que dans l'ère chrétienne, on a changé le nom de dimanche. C'est le jour du Seigneur. C'est le dies dominici. Donc le jour du Seigneur, ça a donné en italien, c'est encore parlant, domenica. Et en français, c'est dimanche, voilà, mais c'est le jour du Seigneur. On le retrouve par contre en anglais, hein, toujours pareil. Les Anglais ont conservé l'étymologie avec le Sunday. Voilà. Voilà pour la semaine. Vous m'interrompez si vous avez des questions. N'hésitez hein. Pas. On va parler maintenant de l'année. Donc l'année, comme vous savez, c'est la rotation de la Terre autour du Soleil, avec donc cette ellipse, hein, cet anneau. Cet anneau, en latin, c'est annus, ce qui a donné le nom année, avec une orbite qui fait environ 1 milliard de kilomètres, et puis une Terre qui se déplace à une certaine vitesse, à 30 km par seconde autour de, si on prend comme référentiel le Soleil, ce qui fait que depuis que je vous parle, on a déjà franchi autour du Soleil plusieurs centaines de milliers de kilomètres. La durée de cette rotation de la Terre autour du Soleil, elle est très exactement, enfin, il manque des décimales, mais si on prend 4 décimales, ça fait 365,2422. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait 365,25, c'est-à-dire le fameux jour un quart. Il y a un petit décalage, on va y revenir. Alors avec quatre périodes qui sont intéressantes, je suis mieux de faire comme ça, voilà. Donc vous avez ici par exemple le solstice d'été, hein, c'est donc au mois de juin, autour du 21 juin, où grâce à cet axe de la Terre qui est orienté environ 23 degrés par rapport au plan de son orbite, l'hémisphère nord est plus éclairé, donc les jours sont très longs, les nuits sont très courtes, c'est la situation inverse dans l'hémisphère sud, donc ici c'est l'été bien sûr, situation inversée au solstice d'hiver, on a donc des jours très très courts ici et des nuits très longues, et puis deux périodes intéressantes ici, ce sont les équinoxes, hein. Alors équinoxe en latin, épouse, ça veut dire égal, et nox c'est la nuit, donc c'est le moment ici et là où la nuit et le jour sont équivalents en durée. Voilà des simples rappels. Un petit mot sur le solstice d'hiver quand même, qui a une importance historique qui est assez intéressante, parce qu'on le retrouve dans toutes les civilisations, que ce soit chez les Grecs, chez les Mésopotamiens, chez les Romains, dans l'ère chrétienne bien sûr, mais aussi chez les Mayas, chez les Aztèques. En fait, vous l'avez compris, c'est le jour où le soleil a fini de descendre et commence à renaître. Donc cette notion de renaissance au solstice d'hiver va être observée dans toutes les civilisations. Et ce n'est pas un hasard si les Romains avaient donc à cette époque du solstice d'hiver une fête hein, qui s'appelait donc Sol Invictus. Littéralement, le soleil a vaincu parce que le soleil avait l'air de mourir et il recommence. Et ce n'est non plus pas un hasard si à partir du 5e siècle, la date de Noël, c'est-à-dire la naissance du Christ, non plus celle du soleil, mais la naissance du Christ, a été fixée au 25 décembre. La question, c'est comment faire une année avec 365,2422 jours. Alors, à Rome, donc bien avant l'ère chrétienne, on a compté donc, le temps à partir de la fondation de la ville de Rome. Ab urbe condita. Alors, urbe, ça veut dire ville. Quand vous le voyez en majuscule dans un texte latin, c'est Rome. C'est la ville de Rome. Vous connaissez l'expression, le pape s'adresse urbi et orbi. Voilà, c'est guillemets, une majuscule, c'est à Rome et au monde. Voilà. Donc, à partir de cette date, on a créé un calendrier, donc humain, qui est basé cette fois sur la Lune, avec ses fameux 355 jours, et donc un décalage d'environ 11 jours par an. Le retard sur le Soleil est compensé, comme je vous l'avais expliqué dans un autre calendrier, c'est avec l'ajout d'un mois intercalaire tous les 3 ans environ. Et c'est un calendrier qui persiste aujourd'hui, par exemple, le calendrier hébraïque est toujours basé sur ce système-là en Israël, avec un calendrier de 29 et 30 jours, et puis un mois qu'on ajoute tous les 3 ans. Les Mayas, eux, se sont basés sur le Soleil, avec un calendrier très élaboré, assez précis, de 18 mois et de 20 jours, et puis 5 jours qui sont consacrés aux fêtes du Soleil. Alors la recherche de la perfection divine, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est qu'effectivement tous les astrologues de l'Antiquité et du Moyen-Âge se sont posé la question comment faire pour essayer que les choses soient, entre la Lune et le Soleil, qu'elles coïncident, qu'il y ait une certaine relation entre les deux, parce que c'est difficile de comprendre qu'un astre avance plus vite que l'autre, et que les choses ne reviennent pas toujours dans le même état au bout d'un certain temps. Alors il y a un astronome grec qui s'appelle Méton, en 432 avant Jésus-Christ, qui a pensé avoir trouvé la solution du problème, et il a relativement bien trouvé, puisque le cycle de Méton va être utilisé jusqu'à l'époque de la fin du Moyen-Âge, de l'ère moderne, c'est-à-dire au XVIe siècle. Ce cycle de Méton, c'est tout bête, c'est qu'il a compris, il a observé que si on prend 355 lunaisons successives, ça correspondait exactement à 19 années solaires. On appelait ça comment au cours de CM2, c'est le plus petit multiple commun, là, je sais plus, le PPCM, ça vous dit quelque chose, c'est vu là, tout ça, mais bon, voilà.
Le petit commun multiple.
Voilà, exactement, merci monsieur. Voilà, donc il a tout simplement trouvé ça, et là c'était la révolution, parce qu'on a dit, ça y est, voilà, la perfection divine, c'est ça. Et donc 19 années, à tel point que ces 19 années, on a déduit de ces 19 années le nombre d'or. Alors attention, ce n'est pas le nombre d'or des mathématiques. J'y reviens après. Le nombre d'or des mathématiques, c'est 1 plus racine de 5 sur 2, c'est à peu près 1,6. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai marqué là. Ça, c'est d'une proportion géométrique. Par exemple, le format A4, vous savez, hein, 21,6, je crois, sur 29,3. Si vous faites la division de l'un par l'autre, vous trouvez ce chiffre, ce nombre d'or. Voilà. Donc ça, c'est le nombre d'or mathématique. Non, ici, il s'agit du nombre d'or du calendrier, de la cosmologie, et il va être tellement reconnu, ce nombre d'or, il va être gravé en lettres d'or, c'est comme ça qu'on l'a appelé, sur le Parthénon d'Athènes. Voilà, il était gravé sur le Parthénon. Voilà. Et donc là, avec le cycle de Méton, on avait un peu résolu cette imperfection de départ des astres entre eux. Alors, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que en fait, c'est pas exact, quoi. C'est approximativement exact, mais ça n'allait pas vraiment. Voilà. Alors, on arrive donc à l'époque de Jules César, donc en 45 avant Jésus-Christ, et donc là, Jules César va faire appel à des astronomes les plus compétents de l'époque, c'est-à-dire les Égyptiens, et puis également un astronome grec, et il va leur demander de faire un calendrier qui tient la route, quoi. Voilà. Et donc ils vont faire un calendrier qui, ça va vous parler parce qu'on s'approche de notre calendrier à nous, avec une année de 365 jours. Alors les solstices et les équinoxes sont fixés au 25, arbitrairement. Alors vous savez que c'est plutôt le 20, 21, hein, mais bon, aujourd'hui, mais là c'est le 25, avec 12 mois, on s'approche de chez nous. Alors, avant Jules César, l'année commençait le 1er mars. Donc mars, avril, mai, juin. Le cinquième mois, en latin, c'est quinquae, hein, donc quintilis. Le sixième mois, c'est sextilis. Le septième mois, septembre, en latin, septembre. C'est donc le septième mois, on a gardé l'étymologie du mot. Alors, pour nous, c'est le neuvième mois. Octobre, pareil, hein, octo, c'est 8. Novembre, c'est 9. Décembre, c'est 10. Et puis, pour terminer l'année, donc janvier, février. Janvier, c'est le nom d'un dieu qui s'appelle Janus. Voilà le calendrier romain tel qu'il existe au départ sous Jules César. Et puis, on met des mois de 31 et 30 jours. C'est-à-dire que tous les mois, de façon régulière, font 31, 30 jours. C'est pas comme aujourd'hui, on a juillet, août qui font 31, 31. À l'époque, c'était 31. Alors, par exemple, juillet avait 31 jours, août avait 30 jours, septembre avait 31 jours, etc. Vous voyez. Et sauf février, qui en a 29 pour faire les 365 jours. Qui est bien 29. Si vous faites le compte, 31 jours, 30 jours, 11 mois, et puis un mois de 29. Et puis donc, on introduit cette fameuse année bissextile tous les 4 ans, en rajoutant un jour à février, ce qui fait février à 30 jours. Alors, l'étymologie bissextile, c'est assez simple, c'est que, vous voyez, bissex, ça veut dire qu'on double 6. En fait, les Romains doublaient le 24 février, on passait du 23 au 24, puis du 24 au 24, de nouveau, puis du 24 au 25. On comptait deux fois le 24 février. Le 24 février, c'est dans la façon de compter des Romains, c'est le 6 des calendes de mars. 6, c'est sexe, hein, donc on doublait le 6e jour des calendes, bissextile. Voilà. C'est pour la petite histoire. Et puis donc, on arrive à une année julienne qu'on va mettre maintenant au 1er janvier et qui fête 365,25 jours. On est pratiquement dans le calendrier actuel. Eh bien, on va faire quelques modifications. Donc, Jules César va mourir à peine 3 ans après la mise en place de ce calendrier, il va être assassiné. Comme c'est un grand personnage, on va lui attribuer le nom d'un mois, hein, c'est un grand honneur, on va lui donner le cinquième mois, Quintilis. Et on va rebaptiser Quintilis en Julius, du nom de Jules César, donc le mois de juillet. Et puis, quelques décennies plus tard, son successeur, donc Octave, enfin, le futur empereur Auguste va mourir. Et comme c'est également un personnage très important, on ne peut pas faire moins pour Auguste qu'on a fait pour Jules César. Donc on va aussi lui attribuer le nom d'un mois, on va lui attribuer le mois d'août. Et on va lui donner le nom du mois d'août, c'est-à-dire Augustus en latin, En italien, on le trouve pratiquement tel quel. En français, c'est août. Voilà, on l'a contracté un peu, mais c'est Augustus. Donc voilà donc les deux personnages qui ont chacun un mois. Mais le mois de juillet, je vous l'ai dit, à 31 jours, le mois d'août à 30 jours. On ne peut pas donner à Auguste un mois qui soit plus petit que le mois de César. Donc on va rajouter un jour. On va rajouter un jour à Auguste, à août, et on va supprimer un jour à février. Et là, on retrouve notre 28 jours de février et 29 jours les années bissextiles. Voilà l'histoire de notre calendrier. C'est pas tout à fait fini. La critique du calendrier julien, eh bien, c'est qu'on a un petit écart, hein, vous connaissez maintenant le chiffre, 365,2422 par rapport aux 325 1/4. Il y a une différence de 11 minutes 14 secondes par an. C'est pas beaucoup. Hein. Sauf que les siècles passent, et par exemple, au début du 4e siècle, au concile de Nicée, c'est en 325, je crois, on a 3,12 jours de décalage. À tel point que ben, les évêques qui sont réunis au concile vont décider de déplacer les équinoxes, donc celle de printemps en particulier, du 25 au 21. Ben, déjà pour faire coïncider un peu les choses, mais ils n'apportent aucune correction à la façon de compter le temps. Ce qui fait que ben, cet écart de 11 minutes par jour, là, par an, va continuer pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'au 16e siècle. Au XVIe siècle, l'écart sera énorme. Et donc, il faut attendre un pape, Grégoire XIII, qui va demander, justement, s'apercevant du décalage énorme qui s'est produit, va demander à ses astrologues de créer un nouveau calendrier. C'est notre calendrier, le calendrier grégorien, du nom du pape. Et donc, il va supprimer arbitrairement 10 jours. En 1582, le jeudi 4 octobre 1582, est suivi le lendemain du vendredi 15 octobre 1582. Ce fut un mois très court, pour ceux qui étaient salariés au mois, c'est intéressant. Par contre, ceux qui ont pris des vocations au mois, je plaisantais. Voilà. Donc, cette chose-là est intéressante parce qu'on rattrape tout le retard, tout le décalage qui s'est produit pendant les siècles précédents, mais on n'a pas encore corrigé ce décalage. Et donc là, ils vont entreprendre de corriger ce décalage en faisant la chose suivante, c'est qu'on va dire que les années multiples de 100 ne sont pas bissextiles. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, 1900 est un multiple de 100. Et bien 1900 n'est pas une année bissextile. Bien qu'elle soit un multiple de 4, hein, mais ce n'est pas un multiple de 100. Alors on fait une correction, mais cette correction est trop forte, dans l'autre sens. Donc il faut diminuer la correction pour la ramener un peu plus juste. Et donc on va dire que si les années sont aussi multiples de 400, à ce moment-là, elles sont bissextiles. C'est ce que vous avez appris à l'école, hein. C'est notre calendrier actuel. Un exemple, donc 1900 n'est pas bissextile, mais l'année 2000, qui est multiple de 4, de 100 et de 400, l'année 2000 a été bissextile. Voilà. Avec cette petite salade, on arrive quand même à des choses assez intéressantes, puisque l'écart n'est plus que de 1/10 millième de jour par an. Voilà, donc là, à l'échelle humaine, avant qu'on constate le décalage, on attend de parvenir. Et je précise quand même que c'est juste, on parle que du calendrier en Occident. Les orthodoxes, ils n'ont pas du tout là-dessus. Il y a un décalage énorme dans les calendriers. Enfin, je me rappelle un peu sur la révolution russe d'octobre qui s'est passée en novembre. Enfin voilà, bon. J'évite de parler de la Russie en ce moment, mais bon. Le calendrier grégorien, je vous l'ai dit, vient jusqu'à nos jours. Et il y a eu un petit intermède, vous le savez également, c'est ce calendrier républicain qui est mis en place à partir de 1793. C'est un député Fabre d'Églantine qui est l'initiateur, mais bon, il est entouré des grands mathématiciens de l'époque, on pense à Monge en particulier, et qui vont concevoir un calendrier qui s'abstient de toute référence religieuse, bien sûr, et puis très mathématique, voire trop mathématique. Il ne va pas durer très longtemps, il va durer un peu plus d'une décennie, et c'est Napoléon, 1er janvier 1806, qui l'abolit et qui revient au calendrier grégorien. Alors, comment il est construit ? Ben, l'équinoxe d'automne est fixé 22-23, alors, je ne sais pas pourquoi, mais enfin bon, 22 ou 23 du mois. Les mois ont 30 jours, de façon uniforme, il n'y a plus de 31 ni de 28, et puis on a 5 ou 6 jours à la fin du calendrier républicain qui sont des fêtes, qui sont utilisées pour les fêtes de la nation, les fêtes de la République, etc. Et puis, alors, la plus grosse, la grosse innovation, c'est cette décade de 6 jours, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la semaine de 7 jours, avec le jour du Seigneur au bout, il y a 10 jours, en fait, qui sont nommés tout simplement, voilà, avec le di de dies, hein, qui veut dire jour, et puis primi pour le premier jour, jour di, tridi, et le dixième jour, décadi, sera le jour de repos. Donc là, il y en a qui sont, ceux qui prennent des week-ends, ils sont un peu plus espacés. Hein. Donc là, je vous ai simplement représenté ici, vous avez les 3 mois de printemps, germinal, floréal, prairial, avec des noms évocateurs pour la population, voilà, qui correspondent souvent à l'agriculture. Les mois d'été, ici, messidor, thermidor, fructidor, avec donc 30 jours ici, et puis vous voyez, aucune référence, bien sûr, au sein, hein, c'est uniquement les patronymes qui sont mentionnés. Donc, parenthèse au calendrier républicain. Oui, bah, quelques expressions pour terminer. Le calendrier, je vous ai dit, ça vient de calendarium, qui fait au départ un livre de compte. Alors ici, c'est le compte du temps. Depuis des lustres, c'est une période romaine qui dure une période de 5 ans entre 2 recensements, donc on appelle ça un lustre. Reporter, c'est toutes des expressions très courantes, hein, mais je le rappelle. Reporter au calendrier grec, c'est tout simplement que les Grecs n'avaient pas de calendrier, donc c'est pour illustrer une action qui ne sera jamais réalisée, en fait. L'année sabbatique, ben, ça vient de la Bible, hein, dans les deux livres, le Deutéronome et le Lévitique, qui était une période de repos de 7 ans, donc ça a gardé son sens. Et puis le mot date, je dis un petit mot, c'est qu'on va le retrouver dans certains manuscrits, ça vient du verbe donner, en fait, puisqu'on utilisait couramment pour dire un acte donné, on disait un instrumentum datum, pour une lettre donnée, on disait littera data. Et c'est ce mot dont donné, qui a donné le mot date. Alors c'est amusant aussi, comme ils disent au cours de sa vie, je l'ai trouvé souvent dans des textes du Moyen-Âge, on emploie une jolie périphrase, on dit « pendant qu'il aura vécu parmi les humains ». Voilà, c'est une façon de dire qu'il est mort, mais que, voilà, qu'il a... C'est, on dit ça souvent, quand j'ai trouvé souvent dans le cas d'usurier, parce que c'est que l'usure est interdite au Moyen-Âge, donc seule la pratique d'une part les Juifs, les Lombards, spécialisés, aussi les habitants de Cahors, c'est surprenant, d'ailleurs on appelle les usuriers, on les appelle souvent les Cahorsins. Voilà. Et il y a bien sûr d'autres personnes qui font de l'usure, mais c'est interdit. Et quand ils se font prendre, ben, ils ont une amende. Voilà. Et au moment où ils meurent, on impose les héritiers, on dit ben, parce que votre père a fait l'usurier pendant sa vie, donc vous payez une amende. Voilà. Voilà comment ça se passe. J'en viens à ma deuxième partie, donc compter le temps au Moyen-Âge, on vient dans le cœur du sujet. Alors, compter les heures, on n'est pas à l'époque où on a des montres, ni d'horloges, pour la grande majorité de la population. Il n'y a pas de GPS. On se repère d'une façon différente. Il n'y a pas de cartes. Les cartes, il existait des cartes maritimes pour les navigateurs, mais on ne connaît pas la topologie autre que celle qu'on vit tous les jours, c'est-à-dire les plaines, les déclivités, les cols alpins, etc. Et les heures, bon, il y a tellement d'imprécisions qu'on les compte en fait par groupe de 3. Elles sont d'une durée variable, puisque vous avez, elles sont réparties sur le jour et la nuit, mais comme le jour raccourcit en hiver, et inversement s'allonge pendant l'été, donc ce bloc de 3 heures, en fait, il peut faire 4 heures, ou il peut faire 2 heures. Ça, finalement, bon, ça gêne personne. Hein. Pierre Denis m'a dit tout à l'heure des choses intéressantes. Nous on a l'heure, c'est ça, et eux ils avaient le temps. Voilà, donc le premier groupe de 3 heures c'est minuit, hein, donc on commence par minuit. Alors, quand j'ai minuit, c'est approximativement minuit, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est matine. Vers 3 heures du matin c'est l'aude, encore une fois ça peut être 2h30, 3h50, enfin voilà, c'est variable. La première heure du jour, on considère que c'est 6 heures du matin pour nous, c'est primant. La 9h du matin, pardon, c'est la troisième heure, c'est l'heure de tierce. La sixième heure se tourne midi, on l'appelle sexte. Ça a donné d'ailleurs le mot sieste, quand on fait la sieste, ça vient de ça. Voilà. Et ensuite, on passe à 15h avec la neuvième heure qui s'appelle nonne. Alors, d'ailleurs, une anecdote sur le nonne, c'est qu'au Moyen-Âge, la plupart des confréries, des moines, faisaient un seul repas par jour. Et ces pauvres moines qui se levaient très tôt le matin pour prier, trouvais que parfois que c'était un peu long d'attendre jusqu'à autour de 15 heures, enfin, ça dépend encore une fois de la période de l'année, mais enfin, attendre pour manger. Donc ils ont eu une fâcheuse tendance à décaler ces nonnes un peu plus tôt dans l'après-midi, vers 14h, 13h, jusqu'à midi. Et c'est resté d'ailleurs, encore une fois, l'anglais garde, conserve assez bien l'étymologie des mots. En anglais, vous avez le mot noon qui veut dire midi. On le trouve dans le mot afternoon qui veut dire après-midi. Vous voyez, et ça vient de noon. Ensuite, on arrive vers la fin de la journée, donc le début du soir, hein, qui a donné vespéral, vêpre. C'est la 12e heure. Et pour terminer le cycle de 24 heures, compile autour de 21 heures. Voilà la façon dont on compte les gens. Alors, on compte le temps au Moyen-Âge. Alors, le cadran solaire que je vous ai présenté en introduction, voilà, il est magnifique, il est du 11e siècle. Hein. Malheureusement, on n'en a pas des comme ça en Maurienne. Hein. Et tous ceux qu'on a en Maurienne, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ils sont plus récents. Donc, vous avez ici les heures dont je vous ai parlé. Hein. Vous voyez, prima, tiers, sexte, nonne et vêpre. Ici, avec ici la pension, toutes les heures où Dieu doit être prié, enfin, où on doit faire la prière. Les cadrans solaires de Maurienne, donc je crois qu'il y en a plus d'une trentaine hein, en Maurienne des cadrans. Ils sont répertoriés, vous allez sur Google, vous tapez cadrans solaires de Maurienne, il y a un érudit qui les a tous recensés, photographiés, c'est assez intéressant. Malheureusement, pour moi qui suis médiéviste, ils sont tous du 18e, 19e, il y en a peut-être un du 17e. En fait, on en parlait tout à l'heure avec Pierre Daunier, je pense qu'il devait exister avant des cadrans solaires médiévaux et très anciens, et je pense qu'on a refait à nouveau par-dessus, bien sûr, parce que l'emplacement était idéal vis-à-vis du soleil et sur un mur d'une église, par exemple, et donc on a détruit les anciens cadrans solaires. Je pense que c'est l'explication. Alors vous avez celui, par exemple, je ne vous montre pas les 30 cadrans solaires, je vous en montre 3. Celui d'Eckbell, oui, qui est très récent, pas très récent pour moi, 1883. Vous avez celui d'Ossois, qui est un peu plus ancien, qui est du 18e. Mais vous voyez quand même qu'ici, c'est quand même la numérotation actuelle, hein, moderne, avec des chiffres, bon, on est d'accord, mais 1, 2, 3, 4, hein, voilà. Et puis celui de Bonneval, qui est encore un peu plus ancien, mais il n'est pas daté. On pourrait peut-être penser qu'il peut être du 17e, voilà. Et puis, je dis un mot sur celui d'Andrec, que vous connaissez, pour ceux qui le connaissent, il faut aller le voir si vous ne le connaissez pas. Il est assez particulier, il n'est pas vieux, il est de 1843. Et il a la particularité de présenter dans sa partie centrale ici, hein. Vous voyez, ici, il y a des étoiles, et toutes ces étoiles représentent des villes, on va dire d'Europe, hein, pas très éloignées de chez nous, mais qui, ça représente le midi. C'est-à-dire que quand vous avez le cadran solaire, par exemple ici, qui fait de l'ombre ici, donc on est ici c'est le matin, on est à 10h du matin, et bien par exemple l'ombre va traverser une de ces petites étoiles, et vous avez donc le midi correspondant. Alors j'ai pas vérifié, mais par exemple il peut être 11h à Saint-Jean-d'Arc et midi à Rome. Voilà, un exemple. Donc c'est un cadran solaire un peu évolué par rapport à ce qu'on connaît. Et puis vous avez en bas, vous avez un truc un peu mystérieux, mais c'est pas si mystérieux que ça, vous avez une inscription. C'est simplement que les chiffres que vous voyez, ce sont des voyelles en fait. Le 1 c'est le A, le E c'est le 2, le 3 c'est le I, etc. Voilà. Et donc si vous transcrivez ce qui est marqué là-dessous, c'est en fait le nom de celui qui l'a fait, c'est Giuseppe Gibellino. Voilà. Alors, je vous parle également du Brevet de Marie de Savoie que vous connaissez parce qu'il y a eu une conférence il n'y a pas longtemps sur la bibliothèque de Chambéry. Et ce bréviaire, qui est un ouvrage vraiment remarquable, hein, si vous passez à Chambéry, allez le voir. Je crois qu'on dit que c'est la petite Joconde de Savoie. C'est un ouvrage vraiment remarquable. Et vous pouvez aussi le feuilleter en ligne. Hein, il existe sur Internet et est très bien numérisé. C'est magnifique. Alors, ben, voilà, c'est 15e siècle. Hein, on l'appelle aussi le bréviaire d'Amédée VIII. C'est le début du 15e siècle, et là on a donc comment les Savoyards, les Moriennais, voilà, comptaient le temps. On nous précise donc que l'année a 12 mois, 52 semaines et un jour. Et puis on nous dit que l'année a 365 jours et 6 heures. Voilà, on ne parle pas des années bissextiles. Parce que vous voyez, on a par contre chaque mois qui est détaillé avec son nombre de jours. sa lune, et puis le nombre d'heures. Ici, on a la nuit qui fait qu'il y a 16 heures et le jour qui a 8 heures. Et puis vous avez dans le calendrier, un peu en dessous, là, vous avez le calendrier traditionnel, vous avez ici les dates, là, vous voyez, ici c'est 4, ici ça veut dire non. Voilà, et ici vous avez donc l'octave de Sancti Stefani. Donc comme vous le savez, Stéphane, c'est pas Stéphane, c'est Étienne. Ceux qui sont intéressés par le football savent tous que à Saint-Étienne jouent les Stéphanois. Voilà. Donc le 4 des nonnes, alors c'est la façon romaine de calculer le temps, hein. C'est-à-dire les nonnes pour le mois de janvier, c'est le 7 du mois, et on compte en reculant, en comptant les extrémités. C'est-à-dire on fait 7, 6, 5, 4, voilà. Donc le 4, alors j'ai dit 7, 6, 5, 4, ouais, ben c'est le 4. Le 4 janvier, Saint-Étienne, si je ne dis pas d'étude. Voilà. Donc ce bréviaire donc, résume voilà, la façon dont on compte le temps en Savoie. Je voudrais dire également que le temps est très relatif au Moyen-Âge et se dépend essentiellement d'espace. C'est-à-dire que quand vous allez d'un point à un autre, eh bien, le temps que vous passez pour aller, c'est pas comme aujourd'hui, vous prenez votre GPS pour aller à Google, vous mettez une demi-heure ou 36 minutes. À l'époque, tout dépend du temps qu'il fait, de la déclivité aussi, si vous faites aller en montagne ou si vous descendez le long de la vallée. Donc la référence au temps est concomitante de l'espace, en fait. C'est un espace-temps déjà. Je prends un exemple de la Maurienne ici, en fait. Donc là, je vous présente une carte avec cette fameuse poule, hein, la Tarentaise et la Maurienne. Évidemment, les paysans de l'époque, les agriculteurs de l'époque, les habitants de Maurienne n'avaient pas cette notion d'une carte comme ça. Ils avaient la notion de la vallée. Pour vous situer, pour aller d'Aigbel jusqu'au col du Mont-Cenis, il faut une vingtaine d'heures. Et ces 20 heures, bien sûr, on ne les fait pas d'une seule traite, hein. On s'arrête en route. Alors, qui fait ce voyage? Il y a beaucoup de gens qui font ce voyage. Il y a donc les grands de ce monde, les princes, les empereurs. Il y a également donc tout ce qui concerne le commerce, c'est-à-dire les marchands qui vont vers la France, vers les grandes foires de France, ou inversement, qui vont en Italie. Vous avez également les ecclésiastiques et les pèlerins qui vont à Rome. Enfin, ça fait beaucoup de monde qui circulent sur cette route. Donc, cette route est très bien équipée en hébergement. Alors, le premier hébergement, c'est systématiquement Aigbel. Quand on sort de la Comte de Savoie, on s'arrête à Aigbel. Il y a des marchands, il y a des auberges, il y a tout ce qu'il faut. Et dès que même, on se rend à la chambre. Voilà. Ça, c'est l'étape suivante. De même à la chambre, il y a tout ce qu'il faut pour accueillir les gens de passage. Par exemple, si on prend l'exemple du comte de Savoie, quand il va en Italie, eh bien, il s'arrête systématiquement à la chambre. Et d'ailleurs, on a décidé, dès le début du XIVe siècle, de lever un impôt à la chambre. Alors, c'est un impôt sur le bois, c'est tout bête. C'est que chaque foyer, chaque feu, doit donner au comte de Savoie, uniquement quand il passe à la chambre et qu'il s'arrête, c'est-à-dire que ce n'est pas toutes les années, doit donner, en latin c'est une estelle de bois. Alors je ne sais comment traduire, j'imagine que c'est peut-être un fagot de bois, voilà. Chaque foyer doit donner du feu, et c'est précisé, c'est pour que le comte puisse faire sa cuisine. Voilà, donc c'est pour ça que je pense à des fagots de bois. Le terme est intraduisible parce que je ne l'ai retrouvé ni dans le latin classique, bien sûr, ni dans le latin médiéval, ni dans le patois. Voilà, donc Estelle, je ne sais pas si Pierre, tu as bien entendu ce mot. Voilà. Enfin, je suppose que c'est un fagot de bois. Donc, à la chambre, on fait une halte systématique. Et puis, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne s'arrête pas à Saint-Jean. Enfin, on ne s'arrête pas. Certains s'arrêtent à Saint-Jean. Les pèlerins, par exemple, qui viennent vénérer les reliques de Saint-Jean-Baptiste. On est au XIVe siècle, hein, le culte de Sainte-Thècle est très, très important déjà. Et Saint-Jean-Baptiste est bien présent. Donc, les pèlerins, bien sûr, vont à Saint-Jean de Maurienne. Mais les marchands, les grands de ce monde qui vont en Italie ne s'arrêtent pas à Saint-Jean. De la chambre, ils vont directement à Saint-Michel. Ça fait à peu près 4h30 de marche encore. Ils s'arrêtent à Saint-Michel, qui également est équipé pour recevoir les gens de passage. Aller à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est un peu difficile parce que, pour ceux qui ont des animaux, par exemple, il faut éventuellement payer le péage au pont d'Hermion. Parce qu'on rentre dans le domaine ecclésiastique, on sort de la châtellerie de Savoie, et donc on évite de le faire. De Saint-Michel, ensuite, eh bien, on continue vers Ossois, vers Termignon. Alors là, les étapes sont variables. Suivant la météo, on peut s'arrêter à Monade ou aller jusqu'à Termignon. Le dernier jour, on va se mettre au pied du col du Mont-Cenis à Lens-le-Gault. Et puis ensuite, le lendemain, au petit jour, on va traverser le Mont-Cenis pour aller jusqu'à Sud. Et donc, c'est quand même un long voyage. Alors là, on parle d'un parcours qui est un parcours de plaine, en fait. Hein, de plaine en semi-montée, qui est un parcours qui doit être relativement régulier. Qui est totalement différent des parcours éventuellement en déclivité dans les montagnes. Je vous ai représenté ici quelques cols. Vous imaginez que pour aller au col ici, pour un habitant de la chambre, pour aller au col de Valbuche ou au col de la Madeleine ici, ce n'est pas tout à fait l'échelle de temps ici. Hein. L'échelle d'espace ne correspond pas à l'échelle de temps puisqu'il y a des déclivités. Éventuellement, s'il y a de la neige l'hiver, ça devient très difficile. Donc, je vous ai représenté ici, c'est en rouge, on le voit qu'en rouge, c'est pas grave, les distances réelles, en fait, les distances temporelles. Par exemple, le col de la Madeleine, vous voyez, en distance, c'est comme à Galibel, en fait, au niveau temps. Si vous partez de Saint-Michel, vous voyez que le Galibier est ici, mais il faut en fait plus de 7h30 pour aller au Galibier. Donc, ça fait une sorte d'étirement des espaces en fonction du temps. Et cet étirement n'est pas constant, comme je vous l'ai dit. S'il neige, si c'est l'hiver, etc. Donc, il y a des difficultés. Donc, il faut essayer de comprendre la façon dont le temps est perçu par les gens du Moyen-Âge. Voilà. Ils n'ont pas, bien sûr, cette carte que nous connaissons tous. Alors, on trouve, par exemple, quand on passe le mont Cenis, on trouve déjà, au Moyen-Âge, ça, c'est, je pense que ça n'avait pas été mentionné avant, on trouve ces fameux marrons. Les marrons qui aident les voyageurs à traverser le col du mont Cenis. Vous savez, avec le système de la ramasse, hein, voilà. C'est un système qui a été bien décrit après au 16e, 17e, 18e, avec de nombreux récits de voyageurs qui en rajoutent un peu en disant que c'était très dangereux, qu'on glissait à une vitesse folle, etc. Enfin, bon. Là, c'est au 14e siècle, on voit déjà qu'il y a des marrons et qui font la même chose. Alors, je ne sais pas si j'ai mis la traduction, je ne pense pas, mais je vais essayer de vous le traduire. En fait, c'est une dépense qu'on paye à un certain Joseph Orsay, qui est un familier de la comtesse de Savoie, pour les dépenses qu'il a eues avec des marrons. Ces marrons qui ont conduit, transporté, on va dire, un certain nombre de fromages, caséos ici, caséos envoyés par le comte de Savoie au seigneur de Miolan, à partir d'Ossois, Ocasio ici, vous voyez, jusqu'à Termignon et Lons-le-Bourg. Et donc, donne explication pourquoi il a eu recours au marron. Ici, propter, donc à cause de magnas nives, à cause des très grandes chutes de neige, et mala itinerum, des mauvais chemins, du mois de décembre, l'année 1384, etc. Et donc, la dépense ici. Vous voyez, donc ici, on n'est même pas dans le col de Mont-Cenis, juste pour aller de Ossois jusqu'à. Dans ce cours, on fait appel à ces marrons parce que les chemins sont. Il y a énormément de neige, quoi. En tout cas, cette année-là. Voilà. Et donc, j'en ai plusieurs citations, y compris dans le Mont-Cenis, pour aller jusqu'à ce. Alors, je vous donne un exemple, malheureusement, qui n'est pas de Savoie, parce que j'en ai pas trouvé un Savoie d'aussi précis. Un exemple de roman, donc on est dans le Dauphiné, ici, au 11e siècle. Et je vous donne cet exemple parce que il reflète. Toutes les façons de donner la datation à l'époque. Alors, il y a par exemple ici, alors je vous mets la traduction, donc c'est fait à Roman, hein, vous voyez le fameux data ici, fait à Roman. L'année de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, 1037. Et ça, c'est pas de surprise, c'est la façon dont on compte nous-mêmes, hein, c'est à partir de l'an zéro du Christ, l'année de l'incarnation. Une deuxième façon de donner le temps, c'est de donner la date depuis sa passion, depuis le moment où le Christ a été mis en croix, 1004 ici. Voilà, donc moi j'avais appris que le Christ avait 33 ans, effectivement ça correspond. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose d'un peu plus complexe ici, c'est l'indiction. On le trouve très fréquemment dans les textes médiévaux. Alors qu'est-ce que l'indiction? C'est pas très compliqué. On part de l'année 312. L'année 312, on est sous l'empereur romain Constantin, et c'est une indiction de référence. Ça va être ce qu'on appelle l'indiction, ça va être l'indiction 1. L'année 313 va être l'indiction 2, etc., 3, 4, et on va comme ça jusqu'à 15. Quand on arrive à 15, on revient à 0. Enfin, plus exactement, on revient à 1, parce que le 0 n'existe pas encore. Donc on revient à 1, et on recommence à 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, jusqu'à 15, et on continue pendant tout le Moyen-Âge, comme ça, à compter tous les 15 ans dans une boucle. Alors, c'est pas compliqué à vérifier si 1037, c'est bien l'indiction 5. Il suffit de faire donc le nombre d'années, donc 725 années entre l'année 1037 et l'année 312. 725 années, on fait la division de 725 par 15. Je trouve 4, 4 fois 15, et je retiens, ça fait 60 et je retiens 12. J'abaisse mon 5, hop, il va 8 fois, et je retiens, il reste 5. Donc voilà l'addiction, c'est le reste de la division en fait. Donc voilà pour l'addiction. Ensuite, on va trouver donc la façon romaine dont je vous ai déjà parlé ici, donc le 6 des nonnes d'octobre. Octobre, les nonnes, c'est le 7, hein, pour d'autres mois c'est le 5, mais octobre c'est le 7. Et on compte à l'envers, 7, le 6 donc. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Donc on est le 2 octobre. Donc là on a déjà une date un peu plus précise, le 2 octobre 1037. La feria, je saute parce que c'est une façon de qualifier les jours de la semaine. La lune aussi, une autre façon de donner le temps. La lune 17, alors c'est simplement le 17e jour depuis la dernière nouvelle lune. Si on cherche dans les tables, on les trouve facilement aujourd'hui sur Internet, hein, en 1037, au mois de septembre, la dernière nouvelle lune était le 15 septembre 1037. Vous rajoutez 17, on tombe bien sur le 2 octobre 1037. Et puis encore deux façons de donner le temps, et toutes ces façons sont utilisées indifféremment suivant les périodes, suivant les lieux géographiques. C'est par exemple la 10e année du règne de l'empereur Conrad. Alors ici on est à Romans, comme je vous l'ai dit, Romans, on est dans le domaine impérial, donc on parle de l'empereur. Si on était en France, on parlerait de l'année de règne du roi. Donc ici l'empereur, eh bien, il s'agit de Conrad de Salic, hein, qui a été couronné à Rome en 1027. On est donc bien dans la 10e année de son règne. Et puis la dernière façon de dater, c'est plus rare, mais ça arrive quand même, c'est de prendre l'évêque ou l'archevêque du coin, de regarder sa période d'activité. Et ici, on nous dit que c'est donc la 7e année en cours de l'épiscopat de l'archevêque aîné. Alors ici, on est donc à Romans. C'est donc Romans, c'est l'archevêché de Vienne. C'est donc l'archevêque de Vienne qui est en place depuis 1031. Et on est donc bien dans la 7e année en cours de son épiscopat. Voilà donc pour un texte assez exceptionnel. Alors, encore une fois, on n'a jamais tout ça. Hein. On a des choses beaucoup plus simples. Par exemple, l'année de règne, ici, on a un document là, qui vient de France. Alors, toujours le data, daté du mois de septembre, régnant Ludovic. Alors, lui, Ludovic, c'est Louis. Année 2. Donc, deuxième année du règne de Louis au mois de septembre. Si on n'a que ça, c'est difficile, hein, parce que des Louis, il y en a dans le Comorant, hein, en supposant même que ce soit en France, parce qu'on n'est pas sûr au départ. Alors, généralement, il y a un contexte au document, il y a d'autres noms, etc. On arrive à s'y retrouver. En l'occurrence, ici, c'est facile. C'est donc le roi Louis VI le Gros, qui est roi à partir de 1108. Donc, la deuxième année de son règne, ici, on est donc en 1109. Une autre façon de dater, donc, c'est l'année de l'incarnation. Donc, je vous ai parlé, hein, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui, qui se diffuse beaucoup après le XIIe siècle. On peut aussi un exemple en Savoie, donc année Domini, toujours, hein, l'année du Seigneur, millésimo, 1000, ducatésimo, 200, septuagésimo, 70, le mois, mense, maillot, mois de mai, voilà, de façon de donner une date. Et puis, on trouve dans les documents, par exemple, quand on veut marquer le point de départ d'une période. Alors, bon, je vous passe là c'est un impôt qui se... Encore une fois, à la Chambre. La Chambre, ils sont très imposés sur plein de choses. Ici, c'est, je vous le lis en français, hein. Il a reçu, donc on parle du chapelain de moyenne qui perçoit l'impôt par l'intermédiaire de ses métraux et dans le métrage de la chambre, qui va récupérer auprès des bouchers de la chambre un impôt. Il a reçu pour 7 échines de bœuf qu'il a obtenu des 6 bouchers de la chambre. Parce qu'à la chambre, on livre chaque année, pour chaque boucher, une échine de bœuf. Voilà. Un impôt qui est propre à la chambre. Et donc elle est, ici, c'est marqué In Nativitatis Domini, donc pour la nativité du Seigneur, donc Noël, et ça compte à partir de, vous voyez, pro terminaux ici, festi, voilà, pour la fête de la nativité, donc pour Noël, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est quo in peperunt courere, c'est l'expression qu'on utilise aujourd'hui en français, qui veut dire qui commence à courir l'année, donc 1330. Voilà donc une façon de dater le temps. Bah, j'avais la traduction, je suis fatigué pour rien. Voilà. Je voulais encore insister sur un point qui est important, ce qu'on appelle les styles. Alors c'est pas très compliqué, c'est simplement le point de départ de l'année. C'est-à-dire que si vous commencez le 1er janvier, le 25 décembre, à Pâques, tous les cas sont envisageables au Moyen-Âge. Prenons l'exemple du style de Noël. Le style de Noël, il est très employé en Savoie, en tout cas au XIVe siècle. C'est donc que l'année commence le 25 décembre. Donc supposons que vous écriviez une lettre datée du 28 décembre. C'est dans l'exemple que j'ai ici, j'ai trouvé un exemple assez parlant où on paye une dépense, un certain Guillaume Bon, un familier du compte, voilà, peu importe, et on commence à lui. On fait donc une lettre chaque fois qu'il y a une dépense, il faut que le comte de Savoie envoie une lettre de mandat, sinon la dépense n'est pas acceptée. Donc il faut chaque fois qu'il y ait une lettre ou une preuve que c'est une commande de la part du comte de Savoie. Et donc la première lettre ici, vous voyez ici, prima, ici, première lettre ici, elle est datée, data, du 28e jour, 28, du mois, Metsé, Decembris, du mois de décembre. 28e jour du mois de décembre de l'année 1333. D'accord ? Et puis, c'est assez exceptionnel, c'est pour ça qu'on ne trouve pas toujours ça. Vous avez la deuxième lettre ici, Secunda, la deuxième lettre, qui est envoyée le 24e jour du mois, même c'est Januari et Janvier, Anno et Odem, ça veut dire la même année, 1333. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, si vous comprenez qu'en Savoie, l'année commence le 25 décembre, le 28 décembre ou le 24 janvier, on est bien dans la nouvelle année. On est dans l'année 1333. C'est ce qu'on appelle l'ancien style, le style de Noël. Et si vous voulez comparer, par exemple, en histoire, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Si vous voulez comparer un document savoyard avec un document français, il faut faire attention à ce genre de détails. Parce qu'en fait, l'année pour nous, ici, c'est 1332. Parce que nous, le 28 décembre, on n'a pas encore franchi le cap de la nouvelle année. Inversement, vous avez le style de Pâques qui est utilisé à Paris. Donc l'année commence vers Pâques. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une date assez variable. La charte est donnée à Paris, par exemple, le 26 janvier 1238. Vu que Pâques, c'est plus loin que plus tard que le 26 janvier, les Parisiens sont encore dans l'ancienne année. Alors que nous, dans notre nouveau style, on est déjà en 1239. Donc en fait, il faut comprendre pour nous que c'est 1239 et pas 1238. Alors j'en profite pour dire un petit mot sur la date de Pâques. Hein. Donc on l'a fixée définitivement comme aujourd'hui. J'en parle parce que c'est Pâques a juste de se passer le dimanche dernier. Hein. Le Concile de Nicée qu'il a fixé en 325 avec ce texte un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. C'est le premier dimanche qui suit, le 14e jour après la première nouvelle lune, après le printemps. 21 mars, c'est le printemps. Donc ça nous laisse 35 dates possibles entre le 22 mars et le 25 avril. Alors ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'il faut être après le printemps, enfin il faut qu'on soit dans le printemps, tant que le printemps n'est pas là, il ne peut pas y avoir Pâques. Donc 21 mars. Ensuite, on prend le 14e jour après la nouvelle lune. Le 14e jour, c'est approximativement, j'ai bien approximativement, la pleine lune. Autrement dit, si vous ne voulez pas vous compliquer la vie, vous prenez la pleine lune juste après le printemps, et c'est le dimanche qui suit. Donc là, si on prend l'année 2023, la nouvelle lune est le 21 mars, le 4 avril, c'était la pleine lune, approximativement, encore une fois, et donc le Pâques, c'est le dimanche qui suit le 4 avril, c'est donc le dimanche 9 avril 2023. Encore une fois, en Occident, en Orient, chez les orthodoxes, c'est le 16 avril. Voilà. Et puis, donc, le dernier style dont on parle, c'est le 1er janvier, c'est celui qu'on connaît le mieux, puisque c'est notre style actuel qui démarre donc, le 1er janvier. Ce style de janvier a été généralisé en France d'abord par Charles IX au XVIe siècle, donc on est en 1564, mais c'est juste avant la Saint-Barthélemy. Charles IX, vous le situez, c'est le troisième fils de Henri II et de Catherine de Médicis. Et puis, donc, en France, en Savoie, on a suivi juste après. En conclusion, vous avez compris que la perception du temps qui s'écoule, c'est d'abord l'observation des astres, avec les moyens de l'époque, que les astrologues de l'Antiquité du Moyen-Âge sont des savants, des érudits, très loin de la notion d'astrologie qu'on a aujourd'hui. La quantification du temps, c'est une recherche de la perfection divine, et c'est confronté à la réalité imparfaite de la cosmologie. Et malgré le cycle de Méton, ça tombe jamais juste. Ensuite, la conception d'un calendrier, vous avez compris que c'est le soleil ou la lune, il faut choisir. Et puis, on peut dire enfin ce que je pourrais rajouter, c'est que bien longtemps avant Albert Einstein, sa théorie de la relativité, enfin ces deux théories de la relativité, et le temps donc qui est compressible ou extensible, au Moyen-Âge, on a déjà cette notion. C'est pas basé sur la vitesse de déplacement, mais c'est basé sur plein de choses, sur le, sur la difficulté d'un parcours, sur la topologie des lieux, sur la saison, la saisonnalité, donc un temps qui est très variable, quoi. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil que je fais à Albert, voilà. Et puis donc, voilà, j'ai terminé mon intervention. Je vous remercie de votre attention.
Est-ce qu'il y a des questions ? C'est vrai qu'on a du mal.